Le journal, Laura Dulieu.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Soudan toujours à la une de l'actualité ce soir avec plusieurs annonces du nouveau chef du conseil militaire de transition nommé ce matin. De son côté, le parti de l'ancien président destitué Omar El-Béchir réclame la libération de ses chefs. Les explications de Bertrand Galichet au début de ce journal. 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes aujourd'hui. Plusieurs milliers de manifestants, principalement à Toulouse où quelques affrontements ont eu lieu. Et puis les états généraux des femmes journalistes ont eu lieu aujourd'hui à Paris pour parler de leurs conditions de travail. David Ravier y était. Les choses continuent de bouger au Soudan après la destitution du président Omar El-Béchir il y a deux jours. Le vice-président qui avait pris la tête du conseil militaire de transition a démissionné ce matin pour laisser sa place à un autre militaire. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Laura.
Et ce nouvel homme fort du Soudan a fait plusieurs annonces tout à l'heure à la télévision d'État.
Oui, levée du couvre-feu, libération de tous les protestataires arrêtés ces dernières semaines, jugement des responsables de la mort de dizaines de manifestants et surtout rupture avec les racines du régime d'Omar El-Béchir. Les mesures annoncées à la télévision par le nouveau dirigeant soudanais Abdel Fattah al-Burhan sont radicales et répondent aux demandes de la foule. Ces décisions s'accompagnent de la démission du redouté chef du renseignement soudanais qui a supervisé ces derniers mois la répression de la révolte populaire. Autant de gestes d'ouverture envers les manifestants qui réclament toujours le transfert du pouvoir à un gouvernement civil. Sur ce point, le conseil militaire, auteur du putsch, promet un dialogue avec les partis politiques mais ne s'engage pas sur la durée de la transition, d'où la vigilance de la rue qui reste mobilisée à Khartoum, notamment aux abords du ministère soudanais de la Défense. Les intentions de la junte concernant le sort du président déchu sont incertaines. Les putschistes assurent que Omar El-Béchir reste en détention, mais disent qu'il ne sera pas livré à l'étranger, c'est-à-dire pas à la Cour pénale internationale de La Haye, qui a émis contre lui un mandat d'arrêt en 2009 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des experts s'interrogent sur les véritables intentions des militaires, certains d'entre eux étant soupçonnés de vouloir protéger l'ancien dirigeant soudanais. Le parti de l'ex-président réclame, lui, la libération de ses chefs, sans toutefois nommer directement Omar El-Béchir.
Bertrand Galichet, merci. En Algérie, des magistrats refusent de superviser l'élection présidentielle du 4 juillet en soutien au mouvement de contestation, car selon les manifestants encore descendus en nombre hier dans la rue, cette élection ne peut pas être libre et équitable si elle est organisée par les dirigeants actuels issus du système Bouteflika, le président démissionnaire. Les 62 migrants récupérés le 2 avril dernier au large de la Libye par le navire Alain Kurdi de l'ONG allemande CI vont enfin débarquer après une errance en Méditerranée d'une dizaine de jours. Ils vont poser le pied à Malte avant d'être répartis entre plusieurs pays européens. Et ce n'est pas la première fois qu'un navire d'ONG doit patienter aussi longtemps avant qu'une solution ne soit trouvée à l'origine de ces délais, notamment l'intransigeance des gouvernements maltais et italiens. Les précisions à Rome de Xavier Sartre.
S'il y a bien quelqu'un qui est heureux au-delà probablement des 62 migrants recueillis par le Alain Kurdi, c'est bien Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. Dans un tweet, il écrit « Très bonne nouvelle, aucun immigré de ce navire d'ONG allemande n'arrivera en Italie. Sa ligne dure, mise en place depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière, a été maintenue. Plus aucun migrant recueilli par des tiers ne posera les pieds sur le territoire italien. » Conséquence directe, le bateau de CI qui avait pris dans un premier temps la direction de Lampedusa, le territoire européen le plus proche de l'Afrique, avait fini par changer de cap et aller à Malte, dont le gouvernement travailliste est également sur une ligne intransigeante. Matteo Salvini, d'ailleurs, s'en réjouit dans le même tweet. « Les Maltais font bien de dénoncer la dangerosité des ONG. Nous sommes à leur côté dans la lutte contre les trafiquants d'êtres humains. » Le Premier ministre maltais, qui a donc fini par accepter le débarquement des migrants sur son sol, précise toutefois dans un tweet qu'aucun ne restera à Malte, qui ne peut pas porter ce fardeau tout seul. C'est là où Italiens et Maltais se rejoignent. Ils demandent en fait que les autres Européens prennent leur part dans ce dossier et ne les laissent pas seuls en première ligne. Or, jusqu'à présent, les partenaires de Rome et de la Valette n'ont pas mis en place une stratégie pour gérer le problème. D'où les tractations coordonnées par la Commission européenne entre différents pays à chaque fois qu'un cas similaire se présente. Cette fois, c'est le Portugal, la France, l'Allemagne et le Luxembourg qui accueilleront les migrants de la Alain Kurdi.
Xavier Sartre et de son côté, le navire de l'ONG Open Arms, lui, est toujours bloqué dans le port de Barcelone. 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, 7500 personnes sur tout le territoire selon le ministère de l'Intérieur, dont 1300 à Paris. Mais cette fois-ci, c'est à Toulouse que beaucoup de manifestants ont choisi de se rassembler. Stéphane Garcia est sur place. Stéphane, des affrontements ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre.
Depuis plusieurs heures, on assiste au jeu du chat et de la souris, loin des débordements du début d'après-midi. Après seulement 30 minutes de manifestation, les policiers et les gendarmes ont d'abord tout fait pour diviser le cortège de 3 500 personnes. Des débordements ont commencé depuis plusieurs heures. À présent, l'objectif des 800 policiers et gendarmes est donc d'éclater les groupes qui se forment autour de l'hypercentre de Toulouse. Le tout guidé par l'hélicoptère qui se dirige et qui tue de nos têtes, tout ça depuis les airs de la ville rose. Mais malgré tout, malgré une action qui était plus rapide que d'habitude, des grenades lacrymogènes beaucoup plus utilisées que les précédentes semaines, à en croire beaucoup de manifestants qui ont l'habitude d'être là le samedi à Toulouse. Eh bien, une masse parvient toujours à se former, notamment au niveau du métro Jean Jaurès, le principal métro à Toulouse. Et dans cette masse, des Black Blocs, ils sont nombreux à profiter des travaux, justement, dans la ville pour chercher l'affrontement, lancer des barres, des pavés, des barres de fer, des panneaux également contre les forces de l'ordre qui répandent par une pluie des grenades lacrymogènes. Et pendant ce temps-là, dans l'hypercentre de Toulouse, autour de la place du Capitole, où les commerçants ont décidé de garder le rideau ouvert, tout est calme. Autrement dit, eh bien, on a deux mondes qui cohabitent cet après-midi ici à Toulouse.
Stéphane Garcia. Et à Paris, 15 personnes ont été interpellées. Les états généraux des femmes journalistes se tenaient pour la première fois aujourd'hui à Paris, porte de la Villette. Plus de 350 femmes journalistes se sont réunies pour parler de la précarité, de leurs conditions de travail et des harcèlements sexuels et sexistes qu'elles subissent. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Laura.
Vous vous êtes rendu à ces états généraux où des ateliers étaient organisés afin de mettre fin à ces pratiques.
Oui, et le travail à accomplir est titanesque. D'après les chiffres recueillis par l'association Prenons la Une, à l'origine de ces états généraux, les cas de sexisme et d'agression sexuelle toucheraient 208 rédactions. Et dans les cas où les plaignantes ont fait des démarches pour dénoncer ces dérives, 2/3 d'entre elles n'ont reçu aucune réponse de leur hiérarchie. Et c'est une situation qui doit changer pour Léa Lejeune, journaliste économique et présidente de l'association Prenons la Une.
Le sexisme ordinaire, on le sent dans les rédactions par moment. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que le plafond de verre est encore là puisqu'il n'y a que 19% des femmes qui sont directrices de rédaction, 34% qui sont rédactrices en chef aujourd'hui et donc très peu de femmes à ces postes-là. À l'inverse, aux postes les plus précaires, 53% des pigistes sont des femmes. Donc on voit que même s'il y a une féminisation très forte de la profession ces dernières années, les inégalités persistent.
Ces inégalités financières et la différence de traitement comparée à leurs confrères sont les principaux totems que les femmes veulent détruire. Diane, pigiste à Grenoble, s'est rendue compte de l'opportunité proposée par les ateliers et la force qu'elle pouvait retirer d'un tel collectif.
Il y a déjà le fait que ça permet aux personnes d'échanger entre elles, donc de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ces réflexions-là. Effectivement, prendre conscience que en fait, ça peut aussi être une force et échanger pour se sentir plus forte parce qu'on est ensemble, effectivement, c'est hyper important.
Les thèmes abordés durant cette journée font évoluer les mentalités, selon Léa, journaliste en presse régionale, qui observait un changement dans la libération de la parole des femmes ces dernières années.
Depuis MeToo, tous les sujets dont on parle aujourd'hui sont des sujets dont on parle beaucoup plus en rédaction. Je pense qu'on va pas renverser le patriarcat dans le journalisme du jour au lendemain avec juste des états généraux. Mais je trouve que c'est important d'avoir un avis extérieur, un outil extérieur pour pouvoir avancer au sein de nos rédactions.
Et le contenu de ces états généraux sera envoyé sous forme de cahier de doléances au ministre de la Culture, Franck Riester, afin de servir de base de travail à une éventuelle réglementation.
David Ravier, merci. Plus de 2000 personnes ont marché cet après-midi pour la défense de la filière automobile en Aveyron, à Onet-le-Château, près de Rodez. C'est le fief de l'usine Bosch qui fabrique des bougies et des injecteurs pour les moteurs diesel. L'usine qui emploie 1600 salariés est directement menacée par le déclin du diesel. Alors pour sauver la filière, c'est l'Union Sacrée. Syndicats, représentants de la Chambre du Commerce et élus locaux ont marché côte à côte. Car les 14 millions d'euros apportés par Bosch en début d'année ou les dernières rencontres avec les dirigeants n'ont rien changé dans la situation. Alerte Yannick Anglarès, le représentant CGT du site.
14 millions, c'est rien du tout. Bosch fait 80 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, dont 4 milliards en France. Par contre, la France, en termes d'investissement, c'est moins de 1% du global des investissements de Bosch dans le monde. Nous, on demande simplement à ceux qui rééquilibrent la balance des investissements par rapport aux chiffres d'affaires qu'ils font en France. L'usine de Rodez a ramené de l'argent pendant des années à Bosch. Maintenant, nous, on demande juste au retour des choses et que Bosch ne laisse pas tomber l'usine de Rodez et qu'ils investissent massivement dans des produits d'avenir. Bosch a tout un panel de produits dans l'automobile et hors de l'automobile. À eux de voir ce qu'ils veulent mettre comme fabrication à Rodez. Mais nous, on est prêts à accueillir toutes les fabrications qu'ils veulent.
Yannick Anglaret se joint par Simon Cardona. La météo pour terminer ce soir. Le temps sera calme et sec pratiquement partout. Et demain matin, des nuages sur toute la façade atlantique. Du soleil également partout ailleurs. Ce sera frais en revanche au réveil. Surtout dans les terres, il fera moins 3 à Aurillac. Et plus, ce sera plus doux ailleurs. Avec 10 degrés prévus à Biarritz ou Nice, 8 à Perpignan. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Caroline Beneteau.